פרשת ויחי. שיר זה מהשם, עליכם תחיו לאורכם טובים בשנים נעים. לפרשת ויחי, קומנס, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. יעקב הווקו אנטר, דן לפי דג'יפט, 17 ans. ויהי ימי יעקב, שני חייו, לז'ור דו יעקב, דו סבי, אתי דו שבע שנים וארבעים שנה, ארבעים ומאת שנה, 247 ans. נומד סולין, כליה, אין טרדיסיון, מנהג ישראל, וקבלה בידם, דקריר לפרשה דמניאר פרמי. Il n'y a pas d'espace entre le premier mot de cette paracha et le dernier mot de la paracha précédente. Cette paracha est appelée paracha Setouma. Cependant, dans toutes les parachas de la Torah, tous les paragraphes de la Torah, il y a deux sortes de parachiot. Il y a les parachiot petuchot, ouvertes, et les parachiot Setoumot. Il y a énormément de parachiot Setoumot. Quelle différence entre les deux? Le Rambam dit que toujours une paracha pétouha commence à une nouvelle ligne. Et s'il n'y a pas suffisamment d'espace, alors on laisse une ligne intermédiaire, vide. Paracha Setouma, une paracha fermée, commence toujours au milieu de la ligne. Il y a de quoi écrire, on laisse un espace de quoi écrire 9 lettres. Cependant, dans notre paracha, il n'y a aucun espace. Il y a l'espace d'une lettre, comme entre deux mots, on nous laissons une lettre, l'espace d'une lettre. Là aussi, c'est la même chose. Donc cette paracha-là est Setouma, complètement Setouma. Elle n'est pas Setouma de la manière habituelle. Rashi dit, « Lama paracha zu Setouma, les fiches kevan chez Niftar Yaakov Avinu. » Pourquoi cette paracha-là est totalement fermée? Parce que, puisque Yaakov Avinu va quitter ce monde dans cette paracha, « Nistemo enehem velibam chez l'Israël. » Les yeux et le cœur d'Israël se sont refermés. « Mitzarat ha-shi'abud » à cause de la douleur, de l'oppression, de l'esclavage. Pourquoi ?« Shi'itrilu les sha'abedam » Ils ont déjà commencé à les asservir. Peut-être pas physiquement encore, mais intellectuellement. « Davar aher »« Shibikesh les galot et taket » Yaakov Avinu a voulu dévoiler la fin. Venista mimeno. Et cette fin-là s'est refermée de lui. Il n'a pas eu accès à cela. Toute la Torah est écrite noir sur blanc. Il y a une mitzvah, une obligation de laisser, quand on écrit les lettres, que ces lettres-là soient moukaf, que chaque lettre soit moukaf gevil. C'est-à-dire qu'il y a du blanc qui entoure la lettre. Et qu'il y ait tout le temps du blanc entre les lettres et les mots, afin que les mots ne soient pas collés, et les lettres non plus ne soient pas collées. La Torah nous maître disent que la Torah est écrite, la Torah qui était devant Akadosh Baruch Hu avant qu'elle ne soit donnée à Moshe, elle était écrite un feu noir sur un feu blanc. Le feu a deux qualités. Il a la qualité d'illuminer, d'éclairer, et il a la propriété de consumer et de chauffer. Nous disent les maîtres que dans une flamme, il y a plusieurs couleurs. Ce qui est clair, c'est le blanc qu'il y a dans la flamme. Ce qui chauffe, ce qui consume, c'est le noir. La flamme, il y a une partie noire en bas de la flamme. Le blanc en général, la couleur blanche en général, c'est la couleur de fond. Quand un artiste fait un tableau, le fond est blanc et il exprime ses sentiments et ses idées sur ce blanc-là, en mettant de la couleur. Le blanc, le feu blanc, qui est le fond du parchemin, symbolise ce qui est toute la potentialité de la Torah, le potentiel infini. Le blanc est appelé pashut, simple, simple parce qu'il n'est pas défini. Rien n'est encore figé. Il y a une infinité de possibilités. C'est l'immensité, l'infini de la Torah. Quand on écrit le texte, on fige cet infini dans des éléments précis. Le noir va définir, va mettre une limite au blanc. Quand Akadosh Baruch Hu parle à Moshe, il est dit une expression qu'il ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire que quand on parle, on a besoin de couper les mots, de reprendre son souffle, de mettre, quand on écrit, on met des points, des virgules, pour reprendre son souffle, pour pouvoir lire, pour pouvoir comprendre, pour prendre le temps de méditer, de comprendre ce qu'on nous dit. La même chose, Akadosh Baruch Hu, quand il parlait à Moshe, il s'interrompait et le laissait méditer, comprendre, assimiler ce qui a été dit. C'est le sens du blanc qu'il y a entre les lettres, entre les mots, entre les parachiotes. D'une paracha à l'autre, on nous laisse au minimum 9 lettres. Le temps de méditer, de comprendre, de construire une 9 lettres qui devraient être écrites, qui ne sont pas écrites, mais qui sont en blanc. Le dit, ce qui est enseigné dans l'enseignement, le maître enseigne une partie de son savoir. Il ne dit pas tout. Il laisse le disciple dévoiler une partie, l'autre partie. Souvent, nos maîtres disent que le non-dit est beaucoup plus puissant en profondeur que ce qui a été dit. Le Rambam explique cela entre le souffle qui sort de la bouche, une partie du souffle portée par la voix. Le souffle porte la voix qui va vers l'extérieur, c'est ce qui a été dit. Mais le souffle qui est resté à l'intérieur de la bouche, qui ne s'est pas exprimé, est d'une puissance beaucoup plus grande. C'est le non-dit, le blanc du Sefer Torah. Quand nous lisons le blanc et le noir. Le dit et le non-dit. Nous devons, à travers les lettres noires, le feu noir qui a figé l'enseignement, dévoiler la partie spirituelle de l'infini qui n'est pas encore, qui va donner de la puissance, de la lumière à la partie noire qui a été transcrite, qui a été écrite, qui a été figée. C'est le sens des parachutes ouvertes, des parachutes fermées, le blanc qu'il y a dans le Sefer Torah. Au minimum 9 lettres. Le 9 symbolise la structure des midot, des sphirotes. 9 sphirotes qui sont la structure intellectuelle et physique de l'homme. La méditation, la compréhension, pour arriver à lire la partie noire qui suit, qui est la réalité de la mise en ce qui est à notre portée. Nous devons au préalable nous préparer à comprendre, nous préparer à méditer. C'est la préparation intellectuelle de s'attacher à la sainteté pour pouvoir comprendre le texte, pour pouvoir maîtriser le texte. Dans cette paracha, il n'y a pas 9 lettres. Il y a l'espace d'une lettre entre deux mots. C'est le minimum. Et on appelle ça cet Ouma, entièrement cet Ouma. Cette partie-là est totalement fermée. Comme si qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas d'espace à la méditation, à la compréhension de ce qui va se passer. C'est-à-dire que cette paracha-là n'est pas une paracha à part entière. Elle est une paracha à part entière. Une paracha, c'est un enseignement particulier. Chaque parachiot de la Torah sont un enseignement spécifique, particulier. Toutes les parachiotes sont liées, mais elles ont leur particularité, leur degré spirituel. Il y a cette paracha, une paracha à part entière, mais elle est totalement liée à ce qui précède. Complètement liée, comme un mot qui est lié à la phrase qui précède. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas d'arrêt. Rashi nous dit que cela est dû à la disparition de Yaakov. Comme Yaakov va disparaître dans cette paracha, alors nous savons que l'exil va commencer. Les ténèbres, le tunnel de l'exil et son obscurité vont commencer. Donc le cœur et les yeux d'Israël se sont refermés. Autre raison, c'est que Yaakov Avinu a voulu dévoiler la fin des temps. Et cela, ça s'est refermé aussi. Que signifie dévoiler la fin des temps? Est-ce que Yaakov pensait donner une date? Bien sûr que non. Yaakov Avinu voulait donner le concept de la délivrance, voulait transmettre la définition de ce qu'on nous appelons la délivrance, la Géoula. La compréhension de la Torah, la compréhension profonde de cette paracha, contient la délivrance. En analysant la fermeture qu'il y a de cette paracha, nous allons comprendre qu'est-ce que la délivrance. La délivrance ne peut venir que du galout. S'il n'y a pas de galout, il ne peut pas y avoir de délivrance. Mais cette délivrance-là, la date de la délivrance, le temps de la délivrance est fermé. C'est dévoilé, comme dit le verset, à mon cœur et pas à ma bouche. Ce n'est pas fait pour être dit. C'est fait pour être compris. C'est fait pour être assimilé. Le cœur est le lieu de la compréhension, mais cela ne doit pas sortir à l'extérieur. C'est le sens de la fermeture. La question qui se pose ici est comment est-il possible que Yaakov Avinu ait pu savoir le temps de la délivrance? Voilà que lors du rêve, de l'échelle, il est dit dans le Midrash et dans les Pirkei de Rabbi Eliezer qu'Akadosh Baruch Hu lui a montré quatre anges, les anges des nations qui dominent Israël, des quatre empires. Or, il en a vu trois qui montent et qui descendent, et il a vu le quatrième monter sans descendre. Et au sujet du quatrième, il a pris peur. Et Akadosh Baruch Hu lui dit ne crains rien, c'est moi qui le ferai descendre. Al tirav di Yaakov, afilu olev yoshev etzli, misham ani morido. C'est moi qui le ferai descendre, même s'il va et il s'installe comme un aigle au-dessus des étoiles. Le Maharal, dans Netzach Israël, explique que les trois malchouyot, les trois empires, les trois premiers empires que Yaakov a vus, il a vu leur montée, leur apogée et leur descente. Pourquoi a-t-il vu la descente? Parce que Akadosh Baruch Hu, de par le monde lui-même physique, ces trois empires-là ont une fin. Mais le quatrième n'a pas de fin à l'intérieur de ce monde. De l'intérieur du système, il n'y a pas de fin à ce monde. Cet empire-là, l'empire de Rome, ceux qui ont détruit le deuxième temple et l'exil, est là pour l'éternité, de par l'intériorité de l'espace dans lequel nous vivons. Il n'y a pas de signe, on ne voit rien qui montre que cela va changer. C'est une action de l'extérieur.
Alors qu'est-ce que cela signifie? La notion de délivrance est à l'opposé, totalement opposée à ce que nous connaissons en ce monde. Le monde dans lequel nous vivons est exactement l'antithèse de la délivrance. Tout ce qui nous paraît comme étant établi, tout ce qui nous apparaît comme étant une vérité totale et absolue, disparaîtra, est à l'opposé de cette délivrance-là. Dans ce monde, il nous apparaît que le système de la création est tel qu'il agit de lui-même, qu'il y a des règles de la nature, des règles de la société, les règles fixées par les hommes, où la nature, les règles, les lois qui gèrent ce monde sont immuables. Il nous semble qu'elles sont gérées par elles-mêmes. La spiritualité est voilée, la spiritualité est pratiquement absente de ce monde. Le kvod, la gloire et l'honneur d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas apparents. Et il nous paraît que tout ce qui nous arrive est une volonté. On ne trouve pas la volonté d'Hachem dans chaque élément qui nous arrive, dans chaque chose qui nous arrive. Nous n'arrivons pas à lier les événements avec la volonté de Dieu. Cette notion-là est à l'opposé total, complète, de la notion de délivrance. La notion de délivrance, c'est la gloire du Seigneur Tout-Puissant, Roi du monde, qui est établi. Il n'y a rien sur terre qui peut arriver en dehors de sa volonté. C'est-à-dire que le monde, lors de la délivrance, le monde va se déshabiller et la lumière va apparaître. Donc la matière va disparaître. Ce qui apparaît comme étant une réalité fondamentale, absolue, totale et établie, n'est qu'une apparence. Il y a quelque chose derrière. Ce quelque chose-là que nous n'arrivons pas à voir, c'est ça qui va se dévoiler. C'est comme si que l'âme va jaillir du corps et va apparaître comme étant le moteur, l'essentiel de la vie humaine, et non pas le corps qui agit. Quelque chose d'extraordinaire, et nous n'en avons pratiquement aucune conscience. C'est ça la notion, que de ce monde-là, de la matérialité, ne peut pas jaillir la délivrance. La délivrance ne peut jaillir que de l'extérieur. De la notion, Akadosh Baruch Hu est au-dessus de l'échelle, c'est-à-dire qu'il est en dehors du temps, et qu'il va agir sur le temps pour influer la délivrance, pour envoyer son flux de délivrance. Mais de l'intérieur, il n'y a aucun signe. Il est impossible d'avoir un signe de l'intérieur. C'est pour cela que la paracha est fermée. La paracha est fermée parce qu'il n'y a pas lieu de dévoiler cette notion-là de spiritualité totale de la gloire d'Hachem qui sera établie sur terre comme elle est établie dans les cieux aujourd'hui. Les anges ne se posent aucun problème, ils constatent la réalité de la souveraineté du roi tout-puissant. Ils n'ont pas de corps, il n'y a pas de doute. Les choses sont des faits établis. Et ils louent, ils passent leur temps à louer l'Éternel tout-puissant. Alors que dans ce monde, cela est compris de manière intellectuelle, mais n'est pas ressenti. Cela peut être accepté de manière intellectuelle, mais cela n'est pas du tout ressenti émotionnellement. Nous ne le voyons pas. Nos sens ne le ressentent pas. C'est le sens de la fermeture de la paracha. Il nous est pratiquement impossible d'aller au fond, de faire jaillir de la lumière blanche pour qu'elle éclaire, pour que cette lumière blanche, le fond, le non-dit, puisse illuminer ce qui a été figé dans le texte. Et c'est ça ce que Rashi dit, « Nistemu aineim velibam shel Israël ». Les yeux et le cœur d'Israël sont fermés. et que la délivrance est fermée. Mais la délivrance est là. De ce galoute-là, il y a les graines qui vont faire jaillir cette délivrance. Yiratzon, que Akadosh Baruch Hu nous illumine, nous fasse jaillir cette lumière, qui nous donne la force de la émouna totale et vraie, comme dit le prophète Habakkuk, Bah Habakkuk ve'aimidan alahat, le pilier 1, l'unique pilier sur lequel repose toute la Torah, les 613 mitzvot de la Torah, c'est la formule suivante, Tzadik be'emunato yahye. Et cette émouna de la geoula, de la délivrance, est fondamentale, totale et absolue pour que nous puissions en sortir. Yiratzon, que nous nous renforcions dans cette émouna, que nous attachions à l'essentiel, et Akadosh Baruch Hu mettra un terme à cet exil et dévoilera sa puissance. Bimhera, bi'amenu, amen.